Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le pod Designer Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Est une introduction à la philosophie de Thomas Nagel, conçue pour des lecteurs ne disposant d'aucune formation préalable. Dans un format très bref, cet essai ne retrace pas une histoire des doctrines ni un panthéon de grands auteurs. Il part plutôt de questions que chacun peut rencontrer en réfléchissant à son expérience : comment savoir si le monde existe hors de notre esprit ? Comment reconnaître une conscience chez autrui ? Comment relier pensée et cerveau, ou encore comment juger une action juste. Nagel examine 9 problèmes fondamentaux, parmi lesquels la connaissance, le langage, le libre arbitre, la morale, la justice, la mort et le sens de la vie. Son objectif est moins de transmettre des réponses définitives que de rendre visible la structure des difficultés. Par une prose concise, des exemples ordinaires et une argumentation progressive, il montre que philosopher consiste à soumettre nos convictions spontanées à un examen rationnel, sans les remplacer hâtivement par une doctrine. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, partir du doute sur le monde pour comprendre ce que connaître veut dire. Nagel ouvre son parcours par une interrogation épistémologique élémentaire sur quoi repose la certitude que le monde extérieur existe tel que nous le percevons. Nos sens nous livrent des expériences, mais ils ne fournissent pas immédiatement une preuve indépendante de leur propre fiabilité. Cette difficulté ne vise pas à affirmer que tout est illusion. Elle oblige à distinguer ce qui apparaît dans la conscience et ce qui justifie une croyance concernant une réalité extérieure. Le livre met ainsi le lecteur face au scepticisme, non comme une posture spectaculaire, mais comme une conséquence possible de questions familières. Voir une table, par exemple, semble suffire dans la vie courante. Pourtant, réfléchir à la médiation des sensations révèle un écart entre expérience vécue et connaissance démontrée. Nagel ne traite pas cette faille comme un simple jeu intellectuel. Elle montre que nos croyances les plus solides comportent des présupposés et que la philosophie commence souvent là où les garanties ordinaires cessent. Le choix de ne pas mobiliser longuement des systèmes historiques renforce cette fonction pédagogique, le problème apparaît avant les réponses traditionnelles. Le lecteur apprend donc à mesurer la portée et les limites de ses raisons, plutôt qu'à réciter une solution consacrée. Deuxièmement, autrui et le cerveau, les limites de la description objective de la conscience, deux chapitres liés interrogent la place de la subjectivité dans une vision physique du monde. Nous observons les corps et les comportements des autres, mais nous ne ressentons jamais directement leurs pensées, leurs douleurs ou leurs perceptions. Nous attribuons donc un esprit à autrui, par analogie, avec notre propre cas, sans pouvoir transformer cette attribution en observation immédiate. Cette question conduit Nagel au rapport entre esprit et cerveau. Une activité cérébrale peut être décrite de manière publique et scientifique, tandis que le fait de goûter, de souffrir ou de voir possède une dimension vécue qui semble accessible au seul sujet. Le problème ne consiste pas à nier les liens étroits entre états mentaux et processus corporels. Il consiste à demander si une description du cerveau épuise ce que représente une expérience consciente. Cette distinction aide à comprendre pourquoi les débats sur la matérialité de l'esprit ne se règle pas par la seule accumulation de données neurologiques. Nagel présente une tension durable entre le point de vue extérieur, qui vise des faits partageables, et le point de vue intérieur, qui donne accès au vécu. Son analyse apprend à ne pas confondre explication causale, observation du comportement et compréhension de la conscience elle-même. Troisièmement, le langage et le libre arbitre comme problème de responsabilité. Le livre examine deux capacités humaines si usuelles que leur étrangeté passe souvent inaperçue, parler avec des mots signifiants et se considérer comme auteur de ses actes. Pour le langage, la difficulté est de comprendre comment des sons ou des signes peuvent viser des objets, des personnes ou des situations, y compris lorsque ceux-ci sont absents. La signification ne paraît pas réductible à un bruit, à une image mentale privée ou à une simple habitude. En posant ce problème sans jargon, Nagel révèle que communiquer suppose une articulation complexe entre intention, usage et monde partagé. La discussion du libre arbitre suit un mouvement comparable. Si chaque action résulte entièrement de causes antérieures, il devient difficile de voir en quel sens une personne aurait réellement pu agir autrement. Mais si une décision était seulement aléatoire, le hasard ne semblerait pas davantage fonder une liberté responsable. Le problème ne se résume donc pas à choisir entre déterminisme et absence de cause. Il concerne les conditions sous lesquelles le regret, le reproche, la promesse ou la décision ont un sens. Nagel laisse apparaître la force des intuitions concurrentes, nous nous vivons comme agents, tout en reconnaissant que nos choix appartiennent à un enchaînement de faits. Cette méthode préserve la difficulté au lieu de la masquer par une formule rapide. Quatrièmement, morale et justice passées de son intérêt propre à des raisons partageables. Nagel distingue la question de ce que chacun doit faire de celle qui concerne la répartition juste des avantages et des charges au sein de la société. La réflexion morale part du conflit entre intérêt personnel et reconnaissance du fait que les autres comptent aussi. Il ne suffit pas de constater que certaines actions provoquent une approbation ou une désapprobation, il faut demander quelles raisons peuvent justifier un jugement au-delà des préférences individuelles. Cette exigence conduit à considérer les personnes comme des êtres dont les intérêts ne peuvent être écartés seulement parce qu'ils ne sont pas les nôtres. La justice déplace ensuite le regard vers les inégalités. Toutes les différences de situation ne sont pas identiques. Mais certaines peuvent appeler une critique lorsqu'elles produisent des privilèges ou des désavantages difficiles à défendre. L'intérêt du livre est de ne pas réduire ces sujets à des mots valorisants. Nagel montre que les intuitions de liberté, de mérite, de besoin et d'égalité peuvent entrer en tension. Une politique juste doit donc être pensée, non déduite automatiquement de la compassion ou du droit de propriété. Cette présentation donne au lecteur des repères pour analyser des désaccords concrets sans prétendre imposer une théorie complète de la morale ou de la distribution. En dernier lieu, la mort et le sens de la vie sans réponse consolatrice préfabriquée. Les dernières questions du livre portent sur deux réalités qui donnent facilement lieu à des formules générales, la mort et le sens de la vie. Nagel les traite avec sobriété en refusant de faire de la philosophie une source de consolation automatique. La mort est problématique parce qu'elle met fin à des possibilités, à des expériences et à une continuité personnelle. Elle ne se laisse pas comprendre seulement comme un événement redouté par anticipation. Réfléchir à elle oblige aussi à interroger ce qui rend une existence précieuse. La question du sens ne reçoit pas chez Nagel une finalité extérieure garantie. Il examine plutôt la disproportion possible entre le sérieux avec lequel nous vivons nos préoccupations et la possibilité de prendre du recul sur leur importance cosmique. Cette distance ne conduit pas nécessairement au désespoir ni à la dérision totale. Elle invite à reconnaître que nos engagements peuvent compter pour nous et pour autrui, même sans validation absolue venue de dehors. Le livre évite ainsi deux simplifications opposées, déclarer que tout possède un sens évident ou conclure que rien ne vaut parce que l'univers demeure indifférent. Cette approche rend les questions existentielles philosophiquement précises. Elle demande au lecteur de distinguer la valeur vécue de ses projets, les raisons morales de ses actions et le désir humain de disposer d'une réponse finale. En conclusion, qu'est-ce que tout cela veut dire ? Convient avant tout aux lycéens, aux étudiants débutants et aux lecteurs curieux qui veulent découvrir la philosophie sans franchir immédiatement le seuil des traités spécialisés. Sa brièveté le rend également utile comme texte préparatoire à un cours. Chaque chapitre fournit un problème identifiable, des arguments initiaux et des points de désaccord qui peuvent être discutés ou approfondis par des lectures ultérieures. Le bénéfice principal ne réside pas dans un inventaire de doctrine. Nagel entraîne le lecteur à repérer les présupposés cachés dans des évidences quotidiennes, à distinguer une intuition de sa justification et à supporter des questions qui ne reçoivent pas de solutions simples. Cette discipline est transférable aux débats moraux, politiques et scientifiques, où la clarté des concepts compte autant que la force des convictions. Comparé aux introductions historiques, le livre se distingue par son organisation centrée sur les problèmes plutôt que sur les auteurs, les périodes ou les écoles. Comparé à des ouvrages plus techniques, il préserve une réelle exigence argumentative tout en évitant le vocabulaire spécialisé et les références intimidantes. Cette méthode a aussi une limite assumée, elle donne peu de contexte sur les traditions philosophiques et ne prétend pas couvrir tout le champ de la discipline. Mais elle réussit précisément ce que promet son format, faire éprouver directement pourquoi les questions sur le savoir, la conscience, la liberté, la justice et la finitude demeurent difficiles et importantes. Si vous souhaitez soutenir Thomas Nagel, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.